Bonsoir à tous, merci beaucoup ma chère Laurence. 19h c'est l'heure, c'est Face à l'info. On reviendra dans un instant sur l'IVG dans la Constitution. D'abord le sommaire ce soir. Alors que le Rassemblement National a donné le coup d'envoi des meetings des Européennes hier, Jordan Bardella a été attaqué par des macronistes. L'absence du drapeau européen lors de son meeting lui a été reprochée. Pourquoi Valérie Ayer, tête de liste de la majorité présidentielle aux Européennes, parle même de projet d'effacement et d'affaiblissement de la France, alors que c'est cela même que le RN veut combattre, l'édito de Mathieu Bock-Côté. Il a une soixantaine d'années, il a été roué de coups, de pieds, de poings, traité de sale juif, il a brièvement perdu connaissance, l'homme était simplement porteur d'une kippa, il se rendait d'une synagogue à Paris dans le 20e arrondissement, l'agresseur est toujours en fuite à l'heure qu'il est. On va se reposer une question que nous nous sommes déjà posée, comment peut-on en arriver là en plein Paris? D'où vient ce nouveau souffle d'antisémitisme puissant qui vient hanter le quotidien des juifs français? L'analyse de Dimitri Pavlenko. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Rishi Sunak a déploré vendredi le conflit à Gaza qui a entraîné une augmentation choquante des tentatives d'intimidation dans le pays. Il a mis en garde contre le poison, je cite, de l'antisémitisme, de l'extrémisme, pardon, qui divise le pays depuis l'attaque du Hamas, pointant particulièrement les islamistes. L'ancien ministre de l'Intérieur britannique, lui aussi, de son côté, déplore, je cite, que les islamistes sont aux commandes du Royaume-Uni. Comment l'expliquer? L'échec du multiculturalisme? Le regard de Marc Menon. Alors que l'activiste franco-béninois Kémi Séba pourrait bientôt perdre sa nationalité française en raison d'une posture constante et actuelle résolument anti-française, c'est lui-même qui l'a annoncé, la nationalité française, on se posera la question, doit-elle se mériter? Cette décision fait couler beaucoup d'encre. Comment l'expliquer? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis Emmanuel Macron a demandé à Aya Nakamura d'interpréter une chanson française le 26 juillet pour les JO. La chanteuse lui a répondu qu'elle aimait beaucoup Edith Piaf. Cette information fait beaucoup réagir l'édito de Mathieu Bock-Côté ce soir. Une heure avec nos éditorialistes, nos mousquetaires. C'est maintenant. Bonsoir à tous. D'abord, cette information, évidemment, ça y est, l'IVG a été inscrit dans la Constitution. C'est une journée historique. Je vais d'abord vous lire le tweet d'Emmanuel Macron avant de rejoindre Élodie Huchard sur place et d'avoir ensuite les éditorialistes. Emmanuel Macron, fierté française, message universel, célébrons ensemble l'entrée d'une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public. Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Élodie Huchard, vous êtes sur place, on vous rejoint à ce congrès à Versailles, 780 voix pour, 72 contre sur 902 votants, c'est bien cela? Journée historique.
Oui. Oui, c'est exactement ça. Et comme vous le disiez, non seulement c'est historique, mais en fait, c'est aussi davantage de parlementaires qui ne l'avaient voté, ce texte, dans leurs deux chambres. Il y avait 760 parlementaires quand on ajoutait les votes qui avaient déjà eu lieu à l'Assemblée, au Sénat. Il y a donc 20 parlementaires qui ont changé leur vote depuis. On a vu Gabriel Attal, notamment le Premier ministre, les implorer d'inscrire l'IVG dans la Constitution, lui-même qui disait qu'en tant qu'homme, il ne pouvait pas forcément comprendre la détresse d'une femme à qui on interdisait l'avortement, mais qu'en tant que frère, que fils, il était fier de participer à cette inscription. On a vu une très très longue standing ovation des députés et d'ailleurs des parlementaires en général et aussi de la présidente du Congrès, Yaël Braun-Pivet. Il y avait aussi des associations notamment féministes dans les tribunes, les anciennes ministres du droit des femmes qui évidemment étaient très émues à l'annonce de ce résultat. Évidemment, il n'y avait pas de grand enjeu. On savait que la majorité absolue serait largement atteinte, mais pour toutes celles notamment qui se sont battues aussi pour ce texte au Parlement, c'est évidemment ce soir une grande victoire.
Merci beaucoup Élodie Huchard et Raphaël Lazreg qui est à vos côtés. Alors pendant ce vote, on a eu des manifestations à Versailles avec 600 à 1000 personnes qui ont manifesté contre cette inscription dans la Constitution, image de boulevard Voltaire. Et puis dans le même temps, un peu plus tard, Trocadéro, des manifestations pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution ce soir, avec la Tour Eiffel qui a brillé de plein feu, en tout cas ce soir, pour cette journée historique. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur ce sujet dont on a grandement parlé déjà sur ce plateau avec Mathieu, avec Charlotte, avec Marc, avec Dimitri. D'abord quelques instants. Écoutez, regardez.
Des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose.
Alors, je ne sais pas, mais tout de suite, il y a une sorte d'apaisement sur le plateau dès qu'on a mis. C'est vrai, Édith Piaf, c'est quand même notre histoire.
Que c'est... Piaf nous rende serein, c'est normal.
On parlera d'Édith Piaf dans la deuxième partie avec vous, mon cher Mathieu, puisque le chef de l'État a choisi Aya Nakamura, qui voudra interpréter Édith Piaf pour les JO. Ça fait beaucoup parler, mais pourquoi ? On se posera la question. Ne nous dévoilez pas tout de suite vos arguments. En tout cas, on a envie de vous entendre d'abord sur ce qui s'est passé ce week-end, Mathieu Bock-Côté. Le meeting du Rassemblement National, dimanche, pour lancer la campagne européenne de Jordan Bardella et la nomination de Valérie Ayer, ces derniers jours, à la tête de la liste Renaissance, a suscité beaucoup de polémiques qui en disent beaucoup sur les enjeux de cette campagne européenne. Et vous souhaitez, pour cela, y revenir. D'abord, en revenant sur la querelle du drapeau français que le RN n'a pas accompagné du drapeau européen. Shocking ?
Oh, pas vraiment, mais pour certains, oui. Pour certains, oui. Il faut revenir sur la raison pourquoi certains sont vexés, sont outrés depuis cet événement. Alors, point de départ, effectivement, vous avez raison de le dire, le RN, parti souverainiste, parti critique de la construction européenne, parti partisan de l'Europe des nations. C'est important de comprendre ça. Sachant tout cela, il n'y a pas de surprise en tant que telle à constater qu'il ne plante pas le drapeau européen dans ses meetings. Ce n'est pas très surprenant. Et même s'il s'agit d'une élection européenne, on peut dire que les militants du RN ne se reconnaissent globalement qu'à travers le drapeau français. Donc ça, c'est leur point de vue. On n'est pas obligé de le partager. Mais ce n'est pas surprenant que les gens du RN ne brandissent que le drapeau français et ne brandissent pas le drapeau européen. Tout comme il ne serait pas surprenant d'ailleurs que les gens de la France insoumise chantent seulement l'international plutôt que la marseillaise. Tout comme il ne serait pas étonnant que des gens de Renaissance brandissent seulement le drapeau européen plutôt que le drapeau français. Ce serait possible aussi. Ou à tout le moins, ce serait étonnant ou non, j'en sais rien. Mais c'est une possibilité. Donc ne soyons pas surpris pour le point de départ. Mais vous avez raison de le dire, polémique majeure qui a suivi. Plusieurs figures importantes de la majorité de la République, de Renaissance, ont dit l'absence de ce drapeau est un scandale. L'absence de ce drapeau est un scandale parce que ça témoigne d'une volonté d'effacer ou de déconstruire l'Europe. Ça témoigne du fait qu'on est incapable, on place en opposition en fait le drapeau français et le drapeau européen. Or, une telle dissociation est inimaginable aujourd'hui. Il faut embrasser les deux drapeaux tout à la fois, sachant que tout culmine dans le drapeau européen. J'y ai vu dans la réaction très vive de plusieurs parlementaires d'En Marche, je reviendrai, de Renaissance, une forme de blasphème dans leur esprit. On a été témoin d'un délit de blasphème. Quoi? Vous n'avez pas brandi la sainte image de l'Europe. Lorsque vous ne brandissez pas une telle image, n'est-ce pas le signe d'une absence de foi? Et manquer à la foi lorsque c'est une religion obligatoire, c'est très grave, il faut le savoir. Donc, je vais en citer quelques-uns. Il y a Nadia, j'espère ne pas mal prononcer son nom, Nadia H-A-I, donc A ou I.
Bon,
Aye, pardonnez-moi, merci beaucoup. Donc, Jordan Bardella est le candidat qui fait campagne pour l'élection européenne sans même un drapeau européen. La coquille vide va jusque-là. Et pour info, on est tous chez nous au cas où le RN l'aurait oublié. Alors, c'est intéressant comme argument, parce que depuis plusieurs semaines déjà, l'argument utilisé contre le RN, contre Bardella, on dit que c'est une coquille vide. Alors, ce serait un peu le Ken de la... Okay, vous savez, Ken et Barbie, de la droite nationale. Ce serait le beau garçon avec du fromage blanc dans le cerveau. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un d'intéressant, nous dit-on. Il y a toute une... Vous savez, le service public qui ne manque jamais à son devoir a fait un complément d'enquête aussi sur Jordan Bardella pour nous expliquer qu'il n'y avait rien dans le cerveau aussi. Parce que vous savez, c'est important le pluralisme au service public et ils ont fait ça pour tous les autres chefs politiques. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Et donc, il y a cette volonté très nette de le présenter finalement comme une belle image, mais une belle image inanimée, finalement une marionnette. Donc ça, c'est l'argument 1. Mais là, maintenant, l'argument 2 aussi, qui est assez intéressant, c'est Bardella serait paresseux, nous dit-on. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas multiplié les rapports et les amendements à Bruxelles. Ce à quoi on pourrait répondre qu'il est normal que des députés souverainistes qui ne souhaitent pas voir l'Europe étendre son emprise sur les nations européennes, eh bien, c'est, par définition, ils ne souhaitent pas multiplier les textes et les règlements européens. C'est comme dans la mesure où vous désavouez une superstructure, vous n'allez pas contribuer à la renforcer. Ça pourrait être une réponse de son point de vue, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais à tout le moins, ça ne me surprend pas. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on présente son refus de brandir le drapeau européen comme le signe d'un amateurisme. On ne lui prête même pas la possibilité d'une conviction. Donc, c'est assez étonnant. Et ensuite, ce serait la marque d'une europhobie. Le terme recommence à circuler un peu pour dire finalement le RN serait fondamentalement hostile à l'Europe en elle-même, au point de vouloir effacer l'Europe en elle-même. Donc, pas une Europe des nations, effacer jusqu'à l'idée d'Europe. Ça nous dit que Roland Lescure, qui est une figure importante aussi de la majorité, un autre tweet, « Une image vaut mille mots. En une photo, l'hypocrisie du Rassemblement national, l'hypocrisie c'est grave, qui lance sa campagne européenne sans drapeau européen, feindre de vouloir protéger l'Europe tout en l'effaçant, c'est ça le programme du RN. » Donc vous voyez, on est encore une fois dans le délit de blasphème, on est devant l'outrance. Et il y a une fonction sociologique à tout ça, ne nous trompons pas, il s'agit de graver certains arguments dans l'esprit public. Et l'idée, c'est de provoquer en fait l'effet en société, l'effet suivant. Vous parlez un peu des européennes, et vous avez vu, Bardella, il n'y avait pas le drapeau européen. Là, tous autour de la table, on se dit, c'est absolument scandaleux, l'absence du drapeau européen, c'est scandaleux. C'est fait pour produire un effet de scandale dans les milieux qui se veulent politiquement évoluer. Reste à voir si ça va parler à l'ensemble des Français. Je note une chose qui est amusante, cela dit, chez plusieurs cadres de la majorité, plusieurs figures, des figures importantes quand même qui sont présentes sur l'espace public. Quelquefois, on en a vu par exemple une, je crois, hier, sur son compte Twitter. C'est important aujourd'hui, c'est une manière de parler de son identité. Il y avait « Européenne convaincue » et seulement le drapeau européen. Et quand c'était remarqué par d'autres, elle a ajouté le drapeau français. Elle a corrigé, elle avait simplement oublié.
D'ailleurs, Renaissance a finalement fait connaître sa tête de liste. Il s'agit de Valérie Ayer, une figure nouvelle dans le paysage médiatique. Elle a bien fait parler d'elle, déjà.
Oui, une figure nouvelle dans le paysage médiatique. C'est une manière tout à fait polie et ça vous honore de parler d'une illustre inconnue. mais cela dit, elle n'est plus inconnue parce qu'on l'a entendue sur deux points essentiels. Oui. D'ailleurs, je précise, elle a un parcours politique qui est là depuis un bon moment. Elle appartient à cette mouvance de centriste macronienne aujourd'hui. Et ça, je pense qu'elle est fidèle à ses convictions. Et on est devant une femme de conviction. Ça, je n'en doute pas. Reste à voir de quelles convictions nous parlons. Petit détail, cela dit, ça nous en dit beaucoup, le fait que ce soit elle qui soit à cette position essentielle, tête de liste pour Renaissance. Peut-être que les grandes figures aujourd'hui de la majorité ont décidé de ne pas être au rendez-vous parce qu'ils s'attendaient à une défaite, presque une défaite annoncée. Dès lors, on préfère envoyer d'autres, en fait, non pas des généraux, mais des colonels ou des majors ou des commandants ou des lieutenants au casse-pipe en disant « Allez diriger la liste parce que franchement, on n'a pas envie de recevoir des baffes. » Donc ça fait partie du raisonnement. Deux axes de campagne pour l'instant, il y en aura d'autres assurément. Elle nous dit d'abord et en tout « Je suis à la tête de la seule coalition européenne véritable ». Donc si c'est la seule coalition européenne véritable, on doit donc comprendre que l'Europe est aujourd'hui assiégée par des anti-européens et anti-européistes. Hein? Il y a un envers à cet argument-là. Et comment présente-t-elle les choses? C'est une citation intéressante. Elle nous dit quels sont ses ennemis. Elle nous dit « Le risque, c'est de vivre un Brexit de l'intérieur si les eurosceptiques sont majoritaires. » Donc si les Européens majoritairement votent pour des partis favorables à la souveraineté nationale plutôt qu'à la souveraineté européenne, il y aura un Brexit de l'intérieur. On pourrait appeler ça un choix démocratique si la majorité vote pour quelque chose. Mais c'est pas ainsi qu'elle voit les choses, notre amie. Elle dit « Ses forces veulent mettre fin au projet de Jacques Delors et de Simone Veil. » avec un V, dont nous parlons aujourd'hui. C'est intéressant. Donc, elle ne parle pas de l'Europe de De Gaulle, elle ne parle pas de l'Europe d'Adenauer, elle ne parle pas des autres Europes possibles, elle parle de l'Europe de Jacques Delors, qui était partisan d'une fédération d'États-nations, une forme de fédéralisme avant le temps, et qui disait aussi à Maastricht, ne l'oublions pas, ceux qui vont voter non n'ont plus leur place en politique. C'est intéressant. Donc, on voit là l'Europe à laquelle il voulait une Europe toujours plus intégrée. Une Europe qui avait sa part presque de despotisme éclairé parce que les peuples étaient incapables de marcher à bon rythme vers l'Europe. Donc, c'est l'Europe dont elle se réclame. Elle ajoute aussi, elles veulent détruire l'Europe de l'intérieur et mettre à bas notre modèle démocratique. Ah bon, d'accord. Donc là, c'est sauver la démocratie. C'est ça l'enjeu. On présente aussi Bardella comme un allié de l'AFD, un parti néo-nazi qui défend un projet de remigration. Bon, là, la néo-nazification de Jordan Bardella, je trouve que c'est audacieux comme argument. Il y a plusieurs choses, surtout c'est compliqué. Parce que, est-ce que c'est Ken la tête vide ou c'est le néo-nazi clandestin? À moins que ce soit un Ken néo-nazi clandestin, mais avec la tête vide, je ne sais plus, mais j'ai l'impression que les arguments s'entrechoquent. Et aussi, elle dit, c'est Viktor Orban qui ironise sur les chambres à gaz. Bon, donc là, il faut vraiment véritablement laisser croire que ceux qui sont contre la construction européenne d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ressemble à la banalisation des chambres à gaz. C'est audacieux comme argument. Ensuite, j'ai dit deuxième ligne de fond, son discours sur l'immigration. Et là, il y a une scène très intéressante qu'on a pu voir sur une autre chaîne info, mais rendons hommage. Là, on pose la question avec Mme Ayer, y a-t-il trop d'immigration en France? Et on pose la question avec insistance. Et elle répond, ben, ça dépend, on va parler d'abord aux gens du patronat. Aux entrepreneurs pour savoir quels sont leurs besoins. Et ensuite, on fixera le cadre législatif pour répondre à ces besoins. Alors, il y a une forme d'inversion de la souveraineté ici. Finalement, la souveraineté migratoire de la France, ce sont les patrons qui vont la décider et le politique s'y adaptera. Donc, on est dans une logique, effectivement, de dénationalisation par le bas de la vie politique. Et ensuite, elle nous dit, ça, c'est une phrase assez intéressante, pendant le débat sur l'immigration, elle dit... Le débat sur l'européen était insuffisamment présent. Et elle ajoute, c'est très intéressant, c'est là que ça joue en Europe, la question migratoire. Donc ce qu'elle nous dit finalement, c'est que la France, sur la question migratoire, n'est plus maîtresse de sa politique parce que le véritable lieu où ça se décide, c'est à Bruxelles. Si elle voulait donner raison à ceux qu'on appelle les souverainistes, qui disent que les Français ont été dépossédés de leur pouvoir et que c'était transféré à la technostructure fédérale européenne, elle vient leur donner raison. Bon, elle s'en réjouit, au moins c'est clair. Mais on voit l'enjeu. Donc, d'un côté, l'antifascisme, de l'autre côté, une politique migratoire fixée en fonction des besoins du patronat et le refus d'envisager la possibilité qu'il y ait trop d'immigration en France.
On dit souvent, Mathieu Bocoté, que les Européennes sont boudées par les Français, mais ne sont-elles pas de plus en plus importantes, finalement, dans la vie de la nation?
C'est ce qu'on vient de voir, hein. C'est quand même assez fascinant. Donc, l'Europe a de plus en plus de pouvoir, mais les Français, peuple national, s'il en est un, se disent non, la vraie élection, c'est pas l'élection européenne, c'est avec la collection d'anonymes qui se présentent sur des listes lointaines. Non, la vraie élection, c'est l'élection présidentielle. Mais vous voyez une dissociation. Ils surinvestissent aujourd'hui existentiellement une élection présidentielle et les élections législatives qui sont vidées de leur contenu parce que le vrai pouvoir est en Europe de plus en plus. Donc, c'est une perte démocratique qu'on pourrait voir là-dedans. Et ça crée un effet de dissociation. Je note, cela dit, que l'Europe comme objet d'identité émerge de plus en plus, quelles que soient nos préférences. On pourrait dire qu'il y a l'Europe laboratoire de la mondialisation, la tendance Renaissance. Il y a l'Europe des nations, c'est la tendance RN. Et il y a l'Europe civilisation, qui est la tendance de Marion Maréchal dans cette campagne. Aussi les Europes de François-Xavier Bellamy. Donc vous voyez, des conceptions de l'Europe différentes se présentent à nous. Effectivement, ça fait une vraie matière pour le débat européen.
Charlotte Dornelas, votre regard sur le lancement de cette campagne, ce premier meeting, et les critiques par rapport à Jordan Bardella?
J'ai rien à ajouter sur la question du drapeau. En effet, la surréaction par rapport à la présence ou non du drapeau, il pourrait le lire politiquement et préciser justement leur opposition au RN, mais ça devient en effet, on n'est plus sur le terrain du blasphème que de la contradiction politique, ce qui est toujours un peu étonnant. Et on le retrouve d'ailleurs, Valérie Ayer, les mots qu'elle choisit, c'est-à-dire que là, on fait 30 ans en arrière. D'habitude, il y a un peu plus de subtilité quand même. On n'en est pas à ces comparaisons complètement lunaires avec la Seconde Guerre mondiale. Donc on sent à la fois, ils ont choisi l'opposition avec le RN, ça c'est indiscutable, et les sondages l'ont choisi pour eux d'ailleurs. Et en même temps, on revient sur un terrain qui risque de lasser tout le monde. Je ne sais pas quel sera le taux d'abstention ou de plébiscite, mais ça risque d'être vraiment pénible.
Merci beaucoup. Dimitri, vendredi à Paris, dans le 20e arrondissement, un juif d'une soixantaine d'années s'est fait agresser alors qu'il sortait de la synagogue, roué de coups de pied, de coups de poing, traité de sale juif. La victime a brièvement perdu connaissance, l'agresseur court toujours. Gérald Darmanin a rapidement condamné un acte antisémite et commandé le renforcement immédiat, oui, la protection de la communauté juive. On a l'impression que c'est bis repetita.
Oui, oui, mais surtout, il y a un contexte autour de cette histoire-là. Pourquoi se fait cet acte, cette agression antisémite-là en particulier? Pourquoi on en parle? Et pourquoi on n'a pas parlé de toutes celles qui se sont produites avant? Parce que je rappelle le chiffre donné par le CRIF. Depuis le 7 mars, vous prenez en moyenne journalière, depuis le 7 octobre, on est à plus 700% d'augmentation des actes et des actes antisémites en France. Plus 700%, ça fait x8. Enfin, vous voyez, ça n'est pas du tout anodin. Alors pourquoi ce fait en particulier? Parce qu'il y a une histoire, en fait, il y a un contexte. D'abord, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui médiatise l'affaire. Il ne réagit pas à une information de presse. Non, non, c'est lui qui donne l'information dans un tweet que vous allez pouvoir voir. Voilà, selon les premiers éléments, une nouvelle agression antisémite s'est déroulée à Paris hier soir. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable. Alors, sous-pesez les mots, acte inqualifiable, on y reviendra. Par ailleurs, sur mon instruction, les préfets renforcent depuis hier la surveillance des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs qui ne doivent pas être les victimes des drames qui se déroulent au Proche-Orient. Voilà, alors, les drames dont il parle, les tensions qui augmentent, il parle de l'émeute de la faim qui a lieu jeudi dernier à Gaza. Vous avez probablement vu les images sur CNews, ces images qu'on a vues, vous savez, vues du ciel, au cours de laquelle une centaine de personnes sont mortes, plus de 700 ont été blessées. Donc à Gaza, à l'arrivée d'un convoi humanitaire, d'une trentaine de camions qui ont été pillés, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui meurent de faim à Gaza. Alors les circonstances exactes de ce drame ne sont pas tout à fait connues. Ce que l'on sait, c'est ce que reconnaît l'armée israélienne, qui ne dit pas « nous avons ouvert le feu ». Elle dit « non, non, vous avez des équipes de chars, certaines ont paniqué, et donc certaines ont ouvert le feu sur les civils ». Vous voyez, donc c'est pas un ordre de l'armée, ce sont des faits isolés, deux militaires qui ont un peu perdu les pédales. Mais voilà, en tout cas, on voit que la condamnation d'Israël, elle est vraiment unanime en attendant l'établissement définitif des faits, je le répète. Voilà. Alors, quel est le rapport avec notre petit monsieur qui s'est fait agresser à Paris? Il y en a deux. D'abord, c'est qu'il faut montrer des preuves de l'antisémitisme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en France, vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui posent la question, comme rappelez-vous l'imam de la mosquée de Paris, là, Abdelali Mamoun, qui disait « Où sont les actes antisémites en France ?» Eh bien voilà, vous en avez un sous les yeux. Voyez, vous en avez un qui prend une valeur symbolique, qui prend une valeur exemplaire. En voilà un d'acte antisémite. Ça, c'est la vertu pédagogique, si je puis dire, de cette information. C'est donc une piqûre de rappel, d'une certaine manière, à tous ceux qui nient, tous ceux qui dévalorisent ou qui tentent d'oublier qu'il y a des actes, qu'il y a de l'antisémitisme en France. La deuxième raison de la médiatisation de cette affaire, je pense, c'est qu'elle permet à Gérald Darmanin de prouver sa vigilance et sa réactivité, action-réaction. Vous voyez, un homme juif se fait agresser dans le 20e arrondissement, c'est tous les juifs qui sont menacés. Je réponds, je vous protège, la France protège les juifs. C'est ça le message de Gérald Darmanin. Et au passage, il nous dit, vous voyez le fait divers derrière le fait de société. C'est ça le second message, si je puis dire, de cette affaire.
Alors, Dimitri, qu'est-ce qui s'est passé concrètement vendredi? Qu'est-il arrivé à Marco, oui, hein, puisque c'est le nom de la victime?
Oui. Alors, vous l'avez un peu raconté, il est 17h30 vendredi, c'est Shabbat, on est rue des Orteaux à Paris. Pour vous situer la rue des Orteaux, c'est pas la rue connue de Paris la plus connue, mais on est entre le cimetière du Père-Lachaise et la porte de Montreuil. C'est pas le coin le plus chic et le plus tranquille de Paris, on va pas se mentir. Il y a pas mal de bandes dans le quartier. Ce sont des rues qui ont beaucoup changé aussi en un demi-siècle avec l'arrivée d'une importante immigration extra-européenne. Et vous voyez, ce fait-là, ce fait de société dont on parle beaucoup sur Face à l'Info, en fait c'est le tabou de cette affaire précisément, c'est ce qui n'est pas rapporté.
L'angle mort.
Alors d'abord je voudrais vous montrer une photo de la synagogue où ça s'est produit, la synagogue Beth Lubavitch de la rue des Orteaux près de laquelle Marco a été agressé. Regardez la photo. Vous voyez ça, ce bunker de tôle?
Non, c'est la synagogue.
Bon, c'est... Oui, 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 ça c'est l'entrée barricadée. 93, c'est pas le département, c'est le numéro dans la rue, mais c'est l'entrée barricadée de la synagogue de la rue des Orteaux, derrière des fortifications en tôle. Vous vous rendez compte, c'est une avancée aveugle, comme un blindage pour pouvoir prier en paix. Et en surplomb, vous avez une grosse cité d'immeubles de 15 étages. Je crois que ça, c'est plus parlant que toutes les démonstrations verbales sur les difficultés d'être juif dans certains coins de France.
En effet, on va marquer une pause. On revient sur ce sujet d'actes antisémites qui continue et qui s'accélère. Pourquoi ? On va parler de la Grande-Bretagne dans un instant avec vous, mon cher Marc, et ce que dit l'ancien ministre de l'Intérieur, le Premier ministre qui crie à propos de ce qui se passe un peu à Londres. On parlera avec vous de Kémy Séba, qui va se faire retirer la nationalité française. C'est lui-même qui l'annonce. Et on parlera d'Ayana Nakamura, un petit peu de musique. Bon, on terminera quand même avec Edith Piaf. On marque une pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. Je viens d'avoir un SMS de Philippe de Villiers qui s'insurge de cet acte antisémite dont on est en train de parler à l'instant. Avant de continuer, on a vu la synagogue et commencer un bunker.
Peut-être dans l'armée pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas vu la photo, parce que je trouve que...
Oui, on va la remettre là tout de suite pour voir cette synagogue. Mais juste avant, j'aimerais qu'on écoute... alors ça, ce n'est pas la synagogue, mais c'est celui qui était à la synagogue, oui. Mais qu'on écoute peut-être Jean-Luc... Carl Olive, à propos de Jean-Luc Mélenchon, ce matin sur CNews.
Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. On le voit mais on ne le voit pas simplement dans ses paroles. On le voit sur les actes. Quand je dis que la France insoumise est un danger pour la société, on s'en rend compte tous les jours avec des cocottes minutes, je le disais, où parfois nos jeunes, notamment dans les quartiers, sont insufflés de plusieurs mensonges. Et 10 mensonges n'entraînent pas une vérité.
Revenons à notre synagogue, mon cher... Dimitri, c'est une boîte de tôle carrément. Voilà. C'est quand même assez choquant, surprenant.
Non, mais ce que je disais, c'est que ce sont des plaques de tôle pour protéger la synagogue elle-même. C'est bien le signe qu'il y a un problème. C'est que pour exercer, être juif, être quand on.
Une synagogue,
certains quartiers, doit se cacher, doit se blinder pour pouvoir.
S'invisibiliser.
Voilà. Alors donc, l'histoire de ce Marco. Va agresser vendredi, elle est la suivante, vous l'avez un petit peu raconté, c'est Shabbat, il est 17h30, il sort de la synagogue, il a encore sa kippa sur la tête, il s'assoit un moment juste à côté du bâtiment, et un individu passe à côté de lui, il revient sur ses pas et va le voir et lui dit « C'est toi qui tues les gens à Gaza ?» À quoi le Marco répond « Non, moi je tue personne, moi j'ai jamais tué personne. » Et là, sans crier gare, l'inconnu, le roue de coup de tête, coup de pied, coup de poing, Marco, en l'occurrence, tombe. Il perd un moment en connaissance et son agresseur s'enfuit. Le bilan pour lui, c'est nez fracturé, dents cassées. Il faut regarder son visage, quoi. Ça se passe de commentaires. Des ouvertures sur le front. Il a témoigné. Il dit qu'il se sent humilié, frustré de ne pas avoir pu se défendre. Et il a ces deux phrases que je trouve intéressantes. « Je ne me sens pas en France. » Ça me fait penser à la Seconde Guerre mondiale. C'est le retour du nazisme. Et je vais ajouter à ça un autre commentaire, celui de Gérald Darmanin. Vous savez, le tweet du départ, c'est le ministre qui révèle l'affaire, on le rappelle, qui parlait donc dans son tweet d'agression antisémite, mais aussi d'acte inqualifiable. Alors je m'arrête sur cet adjectif inqualifiable. Bon, on comprend, il l'emploie dans le sens d'horrible, d'indéfendable, comme on dit quelque chose est inqualifiable. Oui, mais enfin, ça veut dire aussi quelque chose qu'on ne peut pas qualifier. Et on voit que dans cette affaire-là, il y a comme d'habitude dans ces affaires de nouvel antisémitisme, comme on le dit pudiquement, un refus de caractériser les choses. Alors, posons la question, est-ce que c'est un nazi qui a agressé Marco ? L'enquête nous le dira. Parce que pour le moment, l'agresseur court toujours. Mais quel nazi évoquerait Gaza avant de tabasser un juif ? Je pose la question. Il y a encore des nazis. Mais enfin, comme je le disais, le sujet aujourd'hui, c'est plutôt ce nouvel antisémitisme qui n'a aucune honte à prendre le nazisme en référence. À quoi on pourrait parler, comme certains, de djihadisme d'atmosphère, mais une sorte de nazisme d'atmosphère. Je vous ai fait un florilège pour vous donner un exemple concret. On va parler d'Ayana Nakamura, chanteuse tout à l'heure. Je vous parlais d'un rappeur qui est extrêmement populaire. Un de ses clips, un des plus récents, fait 12 millions de vues sur YouTube. Florilège des punchlines du rappeur Freeze Corleone. Je suis sûr que vos enfants, vos ados, ils écoutent ça. J'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. J'ai les techniques de propagande de Goebbels. Tous les jours, rien à foutre de la Shoah. Pour que ma famille vive comme des rentiers juifs. Tous les jours, fuck Israël comme si j'habite Gaza. Je suis à Dakar, t'es dans ton centre à Sion. Et enfin, alors ça, ce sont des extraits, si vous voulez. C'est pas un texte continu, ce sont des extraits de punchline, mais c'est dans le rap de Freeze Corleone. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Donc vous voyez, on est face à un
on lui enlève pas la fréquence.
Rap ouvertement antisémite. Ça mêle l'apologie d'Hitler à celle du Mollah Omar, ça fait des millions de vues, des millions de streams. Non. C'est ça, si vous voulez, le nouvel antisémitisme qui est...
infuse.
Voilà, et qui est islamique, qui est nourri aussi de la pensée décoloniale. Parce que l'idée, c'est que les juifs seraient outrageusement privilégiés dans la société française par rapport aux autres catégories de victimes, à savoir les noirs et les arabes. Et donc, dans ce nouvel antisémitisme, on a quoi? On a de l'antisionisme. Les juifs sont haïssables parce qu'ils soutiennent un État assassin. Je mets des guillemets, bien sûr, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est dans cette pensée-là. On a le négationnisme. La souffrance des juifs, elle est imaginaire, ou en tout cas, elle est très exagérée. Et enfin, on a la concurrence des mémoires, c'est-à-dire pourquoi la Shoah plus que la colonisation. Vous voyez, c'est ça le logiciel du nouvel antisémitisme. C'est ce qu'on retrouve dans la pensée du gang des barbares il y a 18 ans, les tueurs d'Ilan Halimi, dans la pensée de Mohamed Merah, d'Amedi Koulibaly, le tueur de l'hypercachère, les meurtriers de Sarah Halimi, de Mireille Knoll, dans la fille Corbière aussi. Hein. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, disait « Yo, qui est chaud pour casser du sioniste ?» Elle dit ça juste après le 7 octobre, vous voyez. Et le comble, c'est que cet antisémitisme-là, on a tant de mal à le nommer. Et pourquoi? Mais parce qu'il prend le masque d'un antiracisme. Vous voyez le paradoxe absolu devant lequel on est. Or, taire cet antisémitisme-là, probablement celui qui allait frapper au visage Marco, eh ben, c'est favoriser le passage à l'acte. Parce que je vous fiche mon billet avec l'agresseur de Marco. S'il répond au profil que je viens de dresser, et encore une fois, on va attendre la fin de l'enquête, ben, l'agresseur, il est sans doute convaincu d'avoir agi pour ses frères palestiniens. Et vous voyez, c'est ça, en fait, qui est absolument inadmissible aujourd'hui.
Merci. Qui veut réagir?
Je vais réagir à ma façon dans la chronique, parce qu'on s'apercevra que c'est une véritable contagion, c'est un choléra, c'est quelque chose
même,
qui gagne partout.
Je dis même que peut-être les autres chroniques vont réagir d'elles-mêmes. Allons tout de suite sur votre chronique, parce qu'avec vous, on va partir en Grande-Bretagne. Pourquoi on part en Grande-Bretagne? Parce que beaucoup de réactions... interpelle. Et ça fait un moment qu'on a envie de traiter ce sujet. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Rishi Sunak a déploré vendredi que le conflit à Gaza, pour rebondir sur ce que disait Dimitri, ait entraîné une augmentation choquante, je cite, des tentatives d'intimidation dans le pays. Il a mis en garde contre, je cite, le poison de l'extrémisme qui divise le pays depuis l'attaque du Hamas, pointant particulièrement les islamistes. Et puis l'ancien ministre de l'Intérieur britannique, lui également, de son côté, a déploré, je cite, que les islamistes sont aux commandes du Royaume-Uni. C'est fort quand même.
Ben oui, mais c'était un déni de réalité depuis longtemps, le multiculturalisme anglais. Et d'ailleurs, le Premier ministre disait « La construction de la démocratie multiethnique et multiconfessionnelle, la plus réussie au monde, elle s'exprime ici, au Royaume-Uni ». Voilà ce qu'il disait. Mais que se passe-t-il depuis le 7 octobre? Eh bien, à fleur l'antisémitisme, il y a toutes les semaines de grandes manifestations avec des slogans antisémites, des grandes banderoles antisémites, on l'a vu, sur la tour de Big Ben, des empreintes qui condamnent Israël et les Juifs, car ce serait donc à Gaza, ceux qui vivent en Angleterre sont aussi responsables de ce qui se passe là-bas, sur place. Mais qu'y avait-il dans la réalité jusque-là? Eh bien, par exemple, dans les universités, vous aviez une de ces universitaires, un peu comme on l'a vu en France, Mariam Namazi. Elle est athéiste, elle se bat pour les droits des femmes, interdite de conférences. Parce que ça ne correspond pas à la mentalité des étudiants. C'est l'empreinte wokiste. Vous avez également une chercheuse, Starge Bonad, qui a montré que dans les écoles, c'était le séparatisme, dans un certain nombre d'écoles religieuses, c'était le séparatisme qui l'emportait sous l'étouffoir. On a également une philosophe et sociologue algérienne, Ella Lucas, qui, elle, a osé parler de ce qui se manifeste dans de nombreuses villes, à savoir des tribunaux locaux qui ont une autorité car ils rendent leur verdict à partir de la charia. Ce ne sont pas des tribunaux officiels, mais de la communauté, ils rendent le verdict. Et le plus invraisemblable, ce que nous révèle cette femme, qui est donc chercheuse philosophe, c'est que pratiquement toujours, les tribunaux officiels entérinent les décisions qui ont été prises, décisions qui forcément, étant donné qu'elles sont données au nom de la charia, ces sentences, sont toujours nuisibles aux femmes. Alors c'est quand même invraisemblable. Et tout cela, Eh bien, on l'a vu arriver comment ? Il y a aussi, vous avez eu le maire de Londres. Vous le connaissez, Sadiq Khan a manifesté son enthousiasme, je dirais, pour un certain nombre de soutiens à des gens qui prenaient des positions très islamistes. Par exemple, on a eu mis en exergue les liens avec I et Tahir, qui est un homme qui revendique le salafisme, qui revendique donc tout ce qu'il y a de plus exécrable dans le séparatisme. Il y a aussi, lorsqu'on a été à Londres victime des attentats, le gouvernement a voulu réagir en ayant des lois antiterroristes extrêmement rigoureuses contre les terroristes. Eh bien, il s'est opposé à ces lois-là. Il a assisté à des... C'est David Cameron qui le dit. David Cameron a noté que par 9 fois, on l'a vu accompagner un monsieur qui s'appelle Ghani, qui est pro-État islamique. Et on peut multiplier les exemples.
C'est intéressant parce que, comme vous l'avez souligné, toutes ces dernières années, on vantait les mérites du culturalisme britannique. Tout se passait bien, tout le monde vivait en paix, en communauté, se respectait les uns les autres.
C'est un modèle. C'est ce déni que l'on vit en France. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en France, on dit on a la laïcité, alors qu'on se comporte exactement comme ce multiculturalisme. Et qui aboutit à quoi ? Eh bien, à cette faillite aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, c'est fort, justement.
Ben oui, mais avec toutes ces manifestations, toutes les semaines, l'antisémitisme. Et alors là, il y a eu également une élection dans une ville de 120 000 habitants, Rochdale. Et se présentait un homme du parti travailliste dissident extrême-gauche, George Galloway. Il a été élu. Dans cette ville, on a un tiers de la population qui est musulmane, et ce sont des gens qui sont originaires soit d'Inde, soit de Pakistan. Parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a énormément de musulmans aux États-Unis, en Angleterre, mais ils ne sont pas, comme chez nous, issus du Maghreb. Eux, ils viennent du Pakistan, ils viennent d'Inde, ils viennent donc de pays beaucoup plus lointains, mais ils ont le même désir de vivre selon leur rite. Et vous avez des quartiers entiers à Manchester où vous vivez comme si vous étiez au Pakistan. Et donc, cet homme a été élu. Il faut savoir que pour la petite histoire, celui qui avait été désigné par le Parti travailliste peu de temps avant a été condamné par le Parti communiste. On lui a retiré l'étiquette parce que cet homme qui s'appelle Azhar Ali avait dit « Israël a laissé sciemment se dérouler le pogrom du 7 octobre ». Sciemment, le 7 octobre, c'est Israël qui a laissé faire. Voilà où l'on en est. Alors, on peut aussi se poser des questions. Aujourd'hui, on applaudit en France parce que on veut que les femmes puissent disposer de leur corps et ce sera dans la Constitution. Moi, je dis bravo, ça ne me regarde que moi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans le même temps, les femmes... Eh bien, elles peuvent subir la loi de la charia ou, dans certains quartiers, devoir se plier aux exigences de la communauté. Et là, il n'y a plus du tout, les droits de la femme. Il n'y a plus la liberté du corps.
Merci beaucoup, Marc Menon, pour votre regard. Charlotte Dornelas, avant de parler de Kémi Séba, pour introduire votre chronique, je vais vous faire écouter ce que j'ai entendu chez Jean-Marc Morandini ce matin. Il parlait justement de cette déchéance de nationalité française pour cet activiste panafricain. Et vous avez écouté la réaction d'Ali Soumaré, qui est consultant en affaires publiques, ce qui répond après avoir entendu Kémi Séba.
Tous les gens qui ne pensent pas comme lui sont des nègres de maison. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Sauf qu'il y a un certain nombre d'Africains, et moi je l'entends à un moment donné, qui disent que par moment, la France ne s'est pas bien comportée. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, elle s'est collée. Donc si on ne le dit pas, à un moment donné, eh ben, on donne de la force à Kémi Séba.
Bon. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, Charlotte. Critiquer la France qui s'est mal comportée, on lui enlève sa nationalité. Donc c'est Kémy Séba lui-même qui a posté sur ses réseaux sociaux la nouvelle, une procédure de retrait de la nationalité le concernant. On rappelle qu'il est franco-béninois. Que sait-on exactement de cette démarche et des raisons pour laquelle elle est initiée?
Ouais, déjà, Kémy Séba, je suis pas sûre que tout le monde sache très bien de qui il s'agit. C'est un militant qui est panafricaniste désormais.
Je fais une petite parenthèse, je savais pas du tout qui c'était quand j'ai commencé à faire Face à l'info. Voilà. Il m'a tellement insulté que
Vous savez,
j'ai été chercher qui il était.
Voilà. Donc, c'est un militant qui est en effet qui est né à Strasbourg, qui est né lui français de parents qui avaient été naturalisés. Il est il se dit militant panafricaniste aujourd'hui. Il est passé par toutes les étapes que nous a décrit Dimitri à peu près. Enfin, il en est toujours là, mais il a ajouté des priorités par rapport à d'autres. Et pour faire très très simple, il tient exactement le discours de conférence en poste sur les réseaux sociaux que l'homme qui a agressé 3 personnes Gare de Lyon il y a quelques temps. Mais c'est mot pour mot la même chose. C'est-à-dire en effet, la France n'est que colonialisme et il faut libérer l'Afrique. Mais vous allez voir, pas de tous les colonialismes, de certains. Ça dépend ce qui rapporte de l'argent, pour faire très simple. Alors ça fait des années que ça dure. Ça dure en France, sur le territoire métropolitain, dans les Outre-mer énormément, au Sénégal, désormais au Bénin où il est installé, ainsi que sur les réseaux sociaux, surtout où il est extrêmement suivi. Et dans les conférences où il est invité un peu partout, parfois par des élus. Il y a quelques semaines, c'était 2 élus LFI qui l'invitaient, c'était en Guyane. Et donc je réagis en même temps à ce que disait cet homme qu'on a entendu chez Jean-Marc Morandini. Là où il a pas complètement tort, c'est que Kémy Séba est aujourd'hui pointé du doigt. Son discours il en rajoute tellement que certains sont un peu plus mesurés, on va dire, dans les propos qu'ils tiennent. Mais globalement, moi, quand j'entends, il faut quand même dénoncer que la France, parfois, s'est mal comportée. Je sais pas, j'ai vraiment pas l'impression de vivre dans le même pays. J'ai l'impression qu'on ne fait que dénoncer ce que la France a fait de mal et qu'elle n'a jamais rien fait de bien, qu'elle n'a jamais été appelée, par exemple, Kémy Séba, il s'est beaucoup engagé contre Barkhane. Barkhane, en l'occurrence, c'est des soldats français qui sont morts pour aller sauver des gens de l'islamisme dans leur pays, appelés pour cette raison précise. J'ai l'impression qu'on insiste moins là-dessus que sur la détestation que ça génère aujourd'hui. Donc, il y a un moment où le camp de Kémy Séba, on peut pas dire, et par ailleurs les propos qu'il tire sont complètement dingues, on peut pas dire oui d'accord c'est pas fou, mais en même temps il a pas complètement tort, parce que c'est évidemment comme ça qu'il a une audience complètement dingue. Ce que lui reproche en l'occurrence les autorités françaises, c'est, je cite, une posture constante et actuelle. Alors, j'ai pas compris le actuel, hein, parce que ça fait des années et des années que ça dure. Résolument anti-française, susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts français et de nature à caractériser une déloyauté manifeste à l'égard de la France. Bon, c'est indiscutable. D'ailleurs, il le revendique lui-même, donc là, ça va être difficile de le contester. Et ensuite, des messages particulièrement virulents, voire outranciers contre la France, ses représentants et ses forces militaires incitant à la rébellion contre les autorités locales, puisque localement, alors il se dit, il a beaucoup de problèmes en Afrique même. C'est-à-dire qu'on va revenir sur ses propos et ses accusations vis-à-vis de la France. Il se fait beaucoup plus discret sur les problèmes qu'il a en Afrique et sur les pays, beaucoup de pays il a été expulsé, notamment pour les propos qu'il tient. Et il incite à la rébellion contre certaines autorités locales. C'est exactement le discours. Cet homme chez Morandini disait « N'importe quel noir qui n'est pas d'accord avec lui est un nègre de maison dans sa bouche. Ben, » N'importe quel gouvernement africain qui lui dit de se calmer pour ne pas provoquer la rébellion fait partie du problème colonialiste aussi. Donc c'est vraiment, sa grille de lecture est assez binaire, on va dire. Et il fait des conférences, on lui reproche aussi, au cours desquelles il diffuse des messages hostiles à la France, critiquant la présence française en Afrique. Mais ça, je note que si c'est vraiment ça qu'on lui reproche très précisément, c'est-à-dire des messages hostiles à la France qui critiquent notamment la présence française en Afrique, c'est de plus en plus large jusqu'au cœur de certains quartiers français. Donc il faut peut-être, en effet, c'est bien de se réveiller en l'occurrence, mais c'est peut-être des discours qu'il faut notamment poursuivre, mais surtout auxquels il faut répondre, et répondre de manière extrêmement claire et non pas seulement sur un terrain de différence de degré. L'article du Code civil qui est invoqué en l'occurrence, le français, ça c'est très intéressant, l'article, le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français. Il suffit d'avoir deux nationalités et de se comporter comme le ressortissant du pays de la deuxième nationalité. C'est ce que dit le Code civil, point barre. Je note qu'en l'occurrence, l'État ne s'en sert que pour quelqu'un qui est définitivement hostile à la France et qui appelle à se rebeller contre la France, mais c'est la simple raison pour laquelle on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité, ou plus exactement lui retirer sa nationalité, parce que la différence avec la déchéance, vous savez qu'on avait eu ce débat,
oui,
pour des terroristes quand même qui avaient frappé, fait couler le sang dans une entité, en l'occurrence l'État islamique, qui avait frappé et tué des Français, et la déchéance de nationalité n'avait pas été acceptée pour ces gens-là, parce qu'elle ne peut pas viser la déchéance dans l'état actuel du droit. On peut changer le droit encore, mais elle ne peut viser que les personnes qui ont acquis la nationalité française. Lui est né français, puisque ce sont ses parents qui avaient acquis la nationalité française. Mais on découvre là, dans le Code civil, qu'il y a une possibilité de retrait de la nationalité. En l'occurrence, c'est ce qui a été invoqué pour lui.
Alors, s'il déteste autant la France, il n'a pas dû être étonné du coup, ni même choqué de la décision. Est-ce qu'il a réagi ?
Alors, sur les réseaux sociaux, il joue l'incohérence à plein temps, comme d'habitude, et comme exactement le discours que l'on peut voir dans ce genre de mouvance. Alors, il dénonce un réflexe négrophobe. Alors, le réflexe négrophobe, c'est évidemment ridicule, mais il faut quand même le dire encore une fois. Les accusations sont on ne peut plus claires sur son discours. Jamais il n'est fait état de ni sa couleur de peau, ni en l'occurrence même pas de son origine, qui n'est même pas évoquée dans les décisions qui sont prises. C'est son opposition à la France et sa détestation de la France qui sont, je vous ai lu, les raisons pour lesquelles cette procédure est déclenchée. Et en même temps, si je puis dire, il voit la confirmation, je cite, d'une réaction profondément néocoloniale et une immense décoration de guerre. Donc, moi, j'entends personne d'autre parler de guerre coloniale, en l'occurrence, que lui, déjà, dans les circonstances. Et il y voit une décoration de guerre. Donc, le fait que la France puisse imaginer lui retirer la nationalité, c'est à la fois néocolonial et en même temps, c'est une décoration pour lui. Bon, comprenne qui pourra, son rapport en effet à la France. Et il est à la tête d'une fondation qui s'appelle Urgence panafricaniste. Et il milite donc, je vous le disais, pour le continent africain et en gros l'indépendance du continent africain et la solidarité entre les Africains. Sans avoir l'air de comprendre que parfois l'indépendance elle est acquise, ça fait quelques années, je ne sais pas s'il est au courant. Et par ailleurs, ce sont parfois aujourd'hui des pays qui appellent la France au secours. Je prenais l'exemple de Barkhane, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec lui, mais il commente moins, je vous le disais tout à l'heure, ses déboires en Afrique. Il a été expulsé du Sénégal en 2017 après avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA. Il a une grande croisade contre le franc CFA, évidemment, en raison de son anticolonialisme. Il a été expulsé de la Côte d'Ivoire pour avoir tenté d'organiser une manifestation anti-CFA. Il a été expulsé du Burkina Faso parce qu'il organisait un grand meeting politique contre le néocolonialisme, dans lequel notamment il visait les autorités locales accusé de collaboration, pour faire simple. Alors initialement, il tenait un discours qui était uniquement et éminemment racial. C'était vraiment racial. C'est devenu extrêmement antisémite. Enfin, c'était en même temps, évidemment.
C'est mieux.
Exactement.
Oui.
Exactement pour les raisons qu'évoquait Dimitri. Hein, les Juifs avaient tout et eux n'avaient rien. Je fais simple, mais c'est à peu près ça. Il expliquait quand même à l'époque, la phrase exacte, je l'ai pas, mais en tête, ça c'est sûr, c'est qu'il expliquait que le FMI, toutes les instances financières étaient tenues donc par des Juifs partout dans le monde, qu'il faisait vivre un enfer aux Africains et que l'enfer qu'il faisait vivre aux Africains, à côté, le camp d'Auschwitz aurait l'air d'une colonie de vacances. Hein. C'est les propos exacts de Kémy Séba. Pour vous donner une idée de l'antisémitisme, il y a assez peu de doutes là, en l'occurrence. Il avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour violence en réunion. Son sursis avait été révoqué en 2011, notamment parce qu'il avait organisé une manifestation rue des Rosiers avec des slogans éminemment antisémites. Son groupe, le groupe à la tête duquel il était, avait été dissous en 2006. Il avait récidivé en 2009, toujours pour des propos antisémites en l'occurrence. Et son sursis avait été révoqué à ce moment-là. Et peu à peu, l'ennemi, d'année en année, peu à peu, l'ennemi s'est regroupé, on va dire. C'est désormais la France. La France est responsable de tous les maux, les siens, celui de ses frères, celui de l'Afrique, celui du monde entier. Mais quand même, parce que c'est anticolonialiste à tout va, mais on apprend qu'entre 2018 et 2019, alors c'est plusieurs enquêtes, notamment de Jeune Afrique, qui enquêtent sur lui, et qui dit qu'il a reçu du groupe Wagner, qui tient, qui, en tout cas qui se sert de ce genre de propos, 400 000 euros, le groupe, la milice russe, 400 000 euros en 2018 et 2019 pour aller propager sa bonne nouvelle un peu partout contre la France, évidemment. Donc c'est anticolonialisme et libération de l'Afrique, mais ça dépend par qui et ça dépend combien il touche, apparemment, quand même. Donc là, évidemment, c'est le et d'ailleurs, il le dit très bien, et il a accusé la France ces derniers temps sur la chaîne RT, sur laquelle il a été parlé pour expliquer sa réaction.
Oui, c'est depuis Moscou.
Donner sa réaction.
Il a annoncé ça.
Pour donner sa réaction. Donc vous voyez, à la fois, il accuse la France, en même temps, il la déteste, en même temps, il veut quand même la nationalité. En tout cas, il trouve que c'est très abusé de lui enlever. Bon, lui, on peut évidemment disséquer son propos. Le problème, c'est que c'est un propos qui prend, et qui prend jusqu'en France, évidemment.
Et j'ai vu aussi que depuis Moscou, il a dit qu'ils ont choisi, et la France a choisi, les autorités françaises sont tombées sur le mauvais noir.
Oui, le mauvais noir, parce qu'il va mener la guerre, du coup.
Oui, voilà, et il ne sera jamais question pour lui de mendier la nationalité française. Alors, quelle lecture, Charles Dallas, peut-on faire de cette décision française qui intervient assez tardivement dans le processus de détestation qui n'est pas nouveau chez lui et que tout le monde connaît ?
Bah, en effet, donc on nous dit ces derniers temps, c'est les messages qui sont diffusés, notamment en Afrique. Donc on comprend notamment que son rapprochement, le fait qu'il soit payé par Wagner et cette propagande-là anti-française ces derniers temps a dû jouer, évidemment. Mais le discours, il n'a vraiment pas attendu d'être payé, en l'occurrence par Wagner, pour tenir des propos absolument ignobles sur la France et sur le reste. Et je viens de vous en parler un peu. Ce qui m'a étonné tout à l'heure, j'ai insisté sur l'article qui était utilisé pour imaginer son retrait de nationalité. Il est étonnant que l'État se serve de cet article en particulier maintenant, parce qu'on peut se comporter. Il y a une sorte d'amalgame finalement dans le fait de se servir de cet article aussi tardivement pour Kémy Séba. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut se comporter, et on le voit tous les jours en France, on peut se comporter comme le ressortissant d'un pays étranger sans être aussi ignoble que cet homme, sans appeler à la mort de la France toute la journée, sans y voir la responsabilité permanente de tous ces mots. Et il se trouve que nous avons un problème aujourd'hui d'homogénéité, notamment culturelle, pour la raison que de nombreux ressortissants se sentent infiniment plus ressortissants d'un pays étranger. Mais c'est un problème que nous avons qui ne relève pas de la guerre décoloniale, forcément. Donc le fait de se servir de cet article-là pour ne viser que Kémy Séba, bon, c'est un peu se mettre aussi pieds et poings liés, en l'occurrence. D'autant que, et je donne l'exemple précis, il revendique lui, il fait des conférences un peu partout, hein, il revendique lui, alors pour le nombre précisément, d'avoir eu 2000 personnes à un meeting à Bobigny en mars 2023, pas 2013, 1200 l'année précédente à Grigny, 1500 en Guadeloupe. Alors Guadeloupe, en plus, il a récupéré pas mal de notamment on avait parlé du chlordécone ici, il se sert beaucoup de ce combat-là pour avancer son prisme décolonial. Et ça prend évidemment et malheureusement...
Pour inciter à la détestation de la France.
Voilà, pour inciter à la détestation de la France, exactement. Et pour savoir ce qui se fera pour la suite, il a expliqué donc sur la chaîne russe qu'il ferait ses observations, je cite, puisque la procédure lui laisse un mois pour faire ses observations et ensuite ça passera devant le Conseil d'État. Mais en effet, il va faire des observations, mais il dit « on ne m'en dira rien auprès de vous, je ne suis pas de ceux qui pleurent lorsqu'ils sont expulsés ou discriminés ». On a qu'à se dire « bon bah personne ne pleure et puis on en reste là ». C'est le Conseil d'État qui validera ou non le décret et là, après ce mois qui sera passé. S'il ne fait pas d'observation pour rester absolument français, parce qu'on n'est pas une contradiction près.
Dimitri, je me tourne vers vous parce que, comme ça, lorsqu'on voit ce que nous dit Charlotte, par exemple, qu'il n'a jamais caché sa proximité avec le groupe Wagner, le groupe russe que vous connaissez très bien pour avoir bien travaillé dessus, 400 000 euros en 2018-2019, est-ce que ça ne ferait pas partie, c'est un peu des ingérences que critique, que souligne le chef de l'État régulièrement ?
Non, mais c'est-à-dire que Wagner se sert de Kémy Séba et Kémy Séba se sert de Wagner et plus généralement de la Russie parce qu'il a tribune ouverte dans les médias russes. Il s'est exprimé l'année dernière d'ailleurs un grand forum où il avait d'ailleurs mis en garde toutes les tentatives coloniales en Afrique. Mais évidemment, il sert Wagner qui menait un agenda anti-français, en tout cas d'affaiblissement de la France et avec succès. On a vu que ça a fini par fonctionner et lui, en retour, développe son agenda anticolonial et anti-français. Mais voyez, ces gens-là se servent les uns des autres.
J'aime bien, Charlotte, on revient à notre chronique de jeudi dernier. Qui vous paye ? Je ferme la parenthèse.
Oui, exactement.
Ce qui est extraordinaire, ce courant anti-français
alors qu'il y a une élite, quand on va en Afrique, qui adore la culture française. Elle est dans la lignée de Léopold Senghor. Et il y a toute une infiltration, là, Dimitri évoquait, et Charlotte, les Russes, mais n'oublions pas les Chinois, n'oublions pas tous ces pays, même les États-Unis, qui font en sorte de récupérer leur influence afin de bénéficier de l'exploitation des matières premières. Mais les grands salopards, c'est la France.
Mais la France va payer 400 000 euros.
Ben, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir comment les États étrangers jouent sur les diasporas présentes en France pour activer les tensions, pour fragmenter le pays de l'extérieur. On ne doit jamais oublier à quel point les diasporas sont une pièce centrale aujourd'hui pour programmer la décomposition des États.
Oh, Dja Dja, vous connaissez ?
Je connais désormais.
Ah, il paraît que Mathieu a passé toute la journée à chercher qui est Aya Nakamura.
Non, ça j'ai trouvé.
Mais tout le monde connaît Aya Nakamura.
Non,
moi, ça m'étonne pas.
Non, je connaissais de nom, je connaissais vaguement.
Oh, Dja
Dja. Ben voilà, là, c'est ça.
Non, Dja Dja. Bon, j'ai interdit à ma fille d'écouter quand même les paroles. Elle est trop jeune.
Vous êtes une bonne mère.
Ah ben oui, voilà, exactement.
Elle est à Marseille.
Alors, c'est une polémique qui peut sembler frivole, Mathieu Bocoté, mais qui ne l'est peut-être pas. L'Express nous apprenait il y a quelques jours qu'Emmanuel Macron verrait bien Aya Nakamura chanter à l'ouverture des Jeux Olympiques. Elle veut chanter du Piaf. Est-ce que cela vous enchante ? Je suis persuadée qu'Aya Nakamura, c'est la chanson française qui vous fait rêver.
Entre Brassens et Aya Nakamura, j'hésite. Finalement, je prends Brassens. Mais j'ai hésité environ un quart de huitième de seconde. C'est assez amusant quand même comme séquence, mais voyons tout cela positivement. Rappelons-nous, il y a quelques années, Emmanuel Macron nous affirme en fait, il n'y a pas de culture française, il n'y a que des cultures présentes en France. Mais on voit que sa réflexion a évolué aujourd'hui. Et cherchant un visage pour la culture française, cherchant une Marianne chantante pour les Olympiques, il l'a trouvé. En Madame Nakamura, qui s'empare dans les circonstances de Piaf, en dit bon, voilà, c'est une bonne chose, c'est en passant, que Madame Nakamura c'est amusant comme formule Madame Nakamura, qu'elle s'intéresse à Piaf, c'est très bien, c'est une marque d'assimilation, c'est un empreint culturel positif, mais on nous ajoute en plus que c'est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde présent. Son œuvre est déjà immortelle. Alors, célébrons encore une fois. Donc, on voit qu'Emmanuel Macron a trouvé finalement son icône de la culture française. Et on comprend parce que on connaît Madame Nakamura pour la richesse de ses textes. Des textes d'une finesse, d'une richesse, d'une subtilité qui témoignent d'une compréhension fine de l'âme humaine. Par sa capacité à incarner l'élégance à la française, on les envoie, on se dit voilà l'élégance à la française telle qu'on se l'est toujours représentée. Par le fait qu'elle est absolument étrangère aux codes de la culture américaine qui peuvent quelquefois coloniser la France de l'extérieur. Non, c'est pas elle. Le visage de la France aujourd'hui, de la France... Vous savez, Emmanuel Macron l'a même dit au moment de sa grande conférence de presse. Il faut que la France reste la France. Bon, eh bien, disant cela, pour que la France demeure la France, on peut croire que de Piaf à Madame Nakamura, la France demeure la France et est encore plus française parce qu'elle a encore plus de visibilité dans le monde que ne l'avait Edith Piaf. Donc elle lui donnera vie à nouveau. C'est de ce point de vue une bonne nouvelle, je devine.
Alors revenons sur la dimension politique, Mathieu Bocoté. Qu'est-ce que cela dit de notre rapport à l'identité française ?
Alors deux choses. La première, c'est à quel point néanmoins, si vous n'êtes pas d'accord avec cette nomination, imaginons que vous n'ayez pas mon enthousiasme débordant pour cette perspective heureuse, eh bien vous serez raciste. En fait, c'est le terme qui revient depuis quelques jours pour nommer ceux qui disent « Mais est-ce que c'est vraiment l'héritière de Piaf ? Est-ce que vraiment cherchant l'icône musicale pour porter la France aux Jeux Olympiques, est-ce que c'est véritablement elle qui hérite de ça ?» Antoine Léaumont de la France Insoumise, qui n'en est pas au premier commentaire digne d'un philosophe remarquable, dit « La raison pour laquelle des gens ne veulent pas qu'Aya Nakamura chante Edith Piaf est simple. Ça s'appelle le racisme. » Aya Nakamura a fait plus pour le rayonnement de la France à l'étranger que ceux qui s'opposent à ce qu'elle continue à le faire. Elle a fait immensément pour le rayonnement de la France à l'étranger. Sandrine Rousseau est dans le même état d'esprit. Sandrine Rousseau, Aya Nakamura est une grande. Grande quoi, je ne sais pas, mais bon, est une grande. Derrière la minorisation de son talent, il y a des relents racistes. Elle est une star. Elle sera la voix de la France. Quelle fierté! Aya Nakamura, et franchement, et là c'est intéressant, après la catastrophe de la Coupe du monde de rugby, ça aura une autre allure. la catastrophe de la Coupe du Monde de rugby. Vous vous souvenez, on disait que c'était trop franchouillard, trop français, trop enraciné, désagréable de francité. C'était insupportable. Des Français, genre, qui avaient la nostalgie, entre guillemets, du pays tel qu'ils l'ont toujours vécu. Donc, quand on pense aujourd'hui de quelle manière incarner l'identité française dans un moment de vitrine mondiale, eh bien, entre la Jean Dujardin au moment du spectacle pour le rugby ou Madame Nakamura, on comprend que pour Madame Rousseau, la véritable incarnation de la France, c'est Madame Nakamura. C'est intéressant, mais elle n'est pas la seule à le dire. Soyons-en certains. Sur le service public, qui, ne l'oublions jamais, est garant du pluralisme, encore une fois, Madame Elisabeth Philippe a fait un édito-culture. Il n'y a pas plusieurs édito-cultures, donc le pluralisme était dur à trouver, mais je crois qu'il l'incarne autrement. Nous dit, ceux qui ne sont pas favorables à cela, eh bien, ce sont des esprits chagrins. Et elle aussi jette le soupçon de racisme sur le fait que de ne pas s'enthousiasmer pour Madame Nakamura. Donc, vous n'êtes pas pour ça, vous êtes raciste. Est-ce que c'est clair? Alors, moi, je suis assez fasciné. Donc, la possibilité d'un désaccord sur le style, un désaccord sur la musique, un désaccord sur la qualité du chant, un désaccord sur la qualité des paroles, le fait que c'est peut-être pas l'héritière de Piaf, peut-être, eh bien, ça, c'est pas considéré. Mais voyons-y l'essentiel, ça en dit beaucoup sur la vision politique d'Emmanuel Macron, qui ne fait pas l'impasse sur la tradition, mais qui la recycle aujourd'hui à travers Mme Nakamura, qui a la responsabilité de la faire renaître. Le nouveau monde s'empare de l'ancien, s'empare de le trophée Edith Piaf, on s'en empare, et Mme Nakamura pourra le brandir au service de M. Macron.
On se fait un petit plaisir alors pour terminer.
Ça reste à voir ce que vous appelez plaisir.
Non, c'est pas Dja, c'est Edith Piaf.
Alors vous me faites plaisir.
Non, vous pouvez l'aimer aussi, hein.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Avec Marc, non.
Ni le bien qu'on m'a fait. Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Rien de rien.
Marc plutôt qu'Aya Nakamura.